Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
On garde quelques minutes à la fin, Antoine, pour répondre aux questions du public. On aurait Jean qui nous écrit et qui nous mentionne avoir un Toyota RAV4 XLE 2019. Il lui reste 2 ans à la période de financement et son concessionnaire l'a contacté déjà pour prendre un rendez-vous en lui disant que les RAV4 d'occasion sont très en demande. Et lui, de son côté, se demande s'il doit conserver son véhicule ou il profite, entre guillemets, ou s'il devrait profiter de cette situation.
Gardez votre véhicule. Autrement dit, on veut vous remplacer le RAV4 par un autre. Là. Gardez votre véhicule actuellement. C'est payant. Votre véhicule déprécie très peu. Ils sont effectivement très en demande. Et ça va être extrêmement payant pour vous dans les prochaines années de le conserver encore. Ce sont des bons véhicules. Ça garde une valeur marchande épouvantable. Ne cherchez pas pourquoi le concessionnaire est intéressé à vous le racheter.
Et de faire le saut d'un 2019 à un 2021...
Ben, vous verrez pas de différence.
Ben non, voilà.
C'est le même produit.
À part l'odomètre, là, il y aura pas de différence.
C'est ça. Fait qu'il y a pas d'intérêt d'aller vers un 2021. Moi, je conserverai votre RAV4 actuel.
On a Steven qui nous mentionne être locataire d'une Volkswagen Golf GTI 2019 et qu'il prévoit changer de véhicule d'ici 6 mois. Il recherche une voiture sportive, confortable et technologique. Il est intéressé par la Golf R 2022 et la Audi S3 2022. Il mentionne quand même qu'on lui a déconseillé par le passé d'éviter la première année d'une nouvelle génération. Donc, c'est ce qui le fait hésiter, même si ces deux véhicules-là roulent déjà en Europe. Donc, il se demande s'il doit sauter sur l'occasion en novembre prochain ou d'attendre une année supplémentaire. Il vise une location de 3 ans, donc la fiabilité à long terme n'est pas nécessairement un facteur, mais il veut pas non plus être au garage tous les mois. Quelle sera la différence entre la R et la S3, à part le fait que l'une est une berline et l'autre est une voiture à haillons?
Ben là, je vous avoue ne pas avoir analysé en profondeur les nuances entre ces deux modèles-là qui ne sont pas arrivés encore sur notre marché. Je crois qu'au niveau motorisation, ça sera très semblable, encore une fois. Est-ce qu'il y aura des ajouts technologiques à la S3? Je sais que pour la RS3, on a des modes de conduite supplémentaires qui sont différents. Bon, avec un mode drift, on peut désactiver notamment l'essieu avant. Est-ce que ça sera disponible sur la S3? Je ne crois pas. Et pas besoin de vous dire qu'entre les deux, je choisirai une Golf R demain matin. Maintenant, effectivement... Si vous choisissez une première année modèle de nouveauté qui arrive sur le marché, j'écrivais justement un texte là-dessus, sur ce sujet-là cette semaine, ben, il y a des risques d'anomalies plus grandes que pour une voiture qui a déjà quelques années d'expérience dans le corps. Vous louez 3 ans, c'est donc parfait, mais moi, je pense que d'aller vers une Golf R,
C'est difficile de se tromper, là.
C'est difficile de se tromper, mais je vous garantis pas que vous n'aurez pas de problème. C'est une nouvelle voiture, il y a beaucoup de nouveaux éléments sur cette auto-là, qui vont en offrir beaucoup pour le niveau de performance par rapport à son prix. Alors, moi, j'hésiterais pas à aller vers une Golf R, mais attendez-vous pas à la fiabilité d'une Corolla. Là.
Non, parce qu'on sera pas là.
Je ne crois pas à ça.
Bon. On a Benoît qui nous dit être tenté par un GMC Sierra 1500 Denali à moteur V8 de 5,3 litres. Son concessionnaire en a un à vendre, donc déjà là, c'est une belle chance. Il hésite puisqu'il préférait une version hybride rechargeable ou électrique. Est-ce que ça figure dans les plans de General Motors à court ou moyen terme?
Bien, j'ai pas le choix d'admettre que GM, à ce niveau-là, on est très conservateur. Hein. Les offres mécaniques en ce moment, ce sont des motorisations de technologie conservatrice, des gros moteurs V8. On a un moteur 4 cylindres, mais qui n'a pas de bon sens dans une camionnette comme ça. Et qui, finalement, ne fait pas un travail si exceptionnel puisque la consommation est à peine inférieure à celle d'un V8 5,3 litres. Est-ce qu'on s'en vient avec de l'électrique? Oui, du côté de chez GMC, on va avoir une camionnette Hummer 100% électrique. Et c'est écrit dans le ciel que GM va amener des versions électriques, hybrides, rechargeables dans les prochaines années. Je suis pas persuadé qu'on va aller jouer dans le territoire de l'hybride régulier, là. Oui, GM va le faire. Mais on est en retard actuellement, c'est certain. Et c'est drôle que vous mentionniez qu'on est en inventaire des 1500 Denali en ce moment parce que je ziote un petit peu en ce moment le marché marché, ce qu'on retrouve dans les cours des concessionnaires. Et ce qu'ils ont à offrir actuellement, c'est surtout des versions Denali, iCountry, des versions
plus haut de gamme.
Plus haut de gamme.
Plus payantes, finalement.
Ben, on en a produit de ces véhicules-là en noir ou en blanc.
Ouais.
C'est un peu ce qui reste dans les cours des concessionnaires. Ou sinon, à l'opposé, ce qu'on appelle des work trucks, là, des camions à vocation vraiment commerciale, à cabine régulière. Ça, on en a encore un petit peu. Mais du milieu de gamme dans les camionnettes actuellement, il y a une grosse, grosse pénurie. C'est vraiment pas évident. Alors, est-ce que vous faites un mauvais choix en achetant un Denali à moteur 5.3 litres? Bien sûr que non. C'est un camion qui est réputé. C'est un camion qui va être très, très fiable. Mais évidemment, vous n'aurez pas un rendement énergétique si exceptionnel. Attendez-vous à une moyenne d'au moins 14 litres au 100.
Oui, ça devrait ressembler à ça. Antoine, merci beaucoup et bon week-end à toi.
À la semaine prochaine.